La guitare reconnaissable entre toutes, celle de Carlos Santana, Daniel.
Et oui, très reconnaissable en effet. Je pense que la plupart du monde qui écoute de la musique rock de cette époque-là reconnaît facilement Carlos Santana. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Il y a un peu le son de sa guitare, mais il y a un peu son style aussi. Bref, même sans savoir c'est quoi le truc exact, on le reconnaît ouais. très facilement. Et la chanson qu'on vient d'entendre, ça s'intitule « Smooth » et c'était sur l'album « Supernatural » qui est paru en 1999, comme je vous disais tantôt. Il avait été lancé le 15 juin 1999, donc ça va faire 25 ans dans quelques semaines, deux semaines environ. Et c'était le 18e album studio de Santana, quand même.
C'est
ceux qui ont connu, ouais, ceux qui ont connu Santana à partir de cet album-là, il y avait déjà pas mal de vécu avant.
Ouais.
Et bon, on peut dire que cet album-là, quand même, on s'en souvient beaucoup parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vraiment entendu parler de lui, même s'il sortait, il continuait à sortir des albums. Celui-là a vraiment frappé fort. Il a atteint le numéro 1 des palmarès dans 11 pays, incluant les États-Unis. Il est resté, pas en ligne, mais il est resté dans cette position pendant 12 semaines, non consécutives, mais quand même en tout 12 semaines.
Il y avait beaucoup de succès sur cet album qui ont tourné dans les radios commerciales.
Absolument, puis on va en entendre un autre à la fin de la chronique. Il a été, cet album-là a été certifié platine 15 fois, c'est quand même.
15
des ventes
fois.
Estimées à plus de 30 millions dans le monde. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionnait, ses finances à cette époque-là, mais ça a sûrement aidé un peu à le renflouer si jamais ça allait plus ou moins bien.
Je ne sais pas si t'as acheté d'autres guitares avec ça, là.
Ah ben, j'entrerai pas là-dedans, mais curieusement, Carlos Santana, c'est pas quelqu'un qui semble collectionner des guitares comme plein d'autres guitaristes connus qui en ont des centaines. Lui, il est quand même assez fidèle à quelques modèles, quelques marques de guitare, puis il y a pas mal toujours les mêmes. C'est peut-être un petit peu aussi une raison de sa sonorité qu'on reconnaît facilement. Mais ouais, il s'est probablement permis de changer les cordes sur quelques-unes avec ça.
Il y avait les moyens en tout cas.
Oui, et la chanson qu'on a entendue, c'était le premier simple qui avait été publié. Et c'est celui probablement qu'on a entendu le plus aussi. Et je pense que ça tombait bien parce que, étant donné que ça avait été lancé en juin, je ne sais pas si vous le percevez comme ça, moi, je trouve que ça sonne été,
ah
cette
oui,
chanson-là.
Vraiment.
Il me semble que c'est de la musique d'été.
Il y a du soleil là-dedans.
Il y a du soleil là-dedans. En sortant ça au mois de juin, je pense que c'était à peu près assuré que ça jouerait beaucoup pendant l'été. Et souvent, il y a des personnes qui s'imaginent que c'est Carlos Santana qui chante, mais ce n'est pas le cas. Cette chanson-là a été interprétée par Rob Thomas, qui était le chanteur du groupe Matchbox 20. Et sur cet album-là, c'est plusieurs collaborations, plusieurs chanteurs. Je vais vous parler un peu de la carrière de Carlos Santana en passant, comme ça on va comprendre un peu mieux comment il s'est retrouvé à faire cet album-là. Premièrement, Carlos, vous saviez que c'est un natif du Mexique. Il est né le 20 juillet 1947, donc on vous posait la question tantôt. Il a 76 ans, mais il n'est pas comme moi, lui. Il va avoir 77 ans très bientôt,
oui.
Le 20 juillet.
OK, là, c'est officiel.
Oui, c'est officiel. Lui, c'est pas probablement. Et son nom au complet, c'est Carlos Humberto Santana Barragán. Oh. Le Barragán, à la fin, je ne suis pas sûr que je le prononce bien, là, mais il semblerait que le dernier nom de famille, c'est le nom de famille de sa mère.
Ah,
donc,
bon.
Santana, le nom de son père, et Barragán, le nom de sa mère.
Oh, tout le monde l'appelle Santana. Hein?
Tout le monde l'appelle seulement Santana. Ouais. Et je pense que lui, il a travaillé beaucoup, justement, à cette image de marque parce que son nom, c'est Santana. Et quand il a formé son premier groupe, il l'a appelé Santana et ça a toujours resté Santana. On l'identifie toujours comme ça, même s'il y a une partie de carrière solo et une partie avec un groupe. Ça devient un peu difficile des fois de séparer ça parce que ça s'appelle toujours Santana. Donc, c'est dur à suivre un peu. Pour ça, quand je disais tantôt, 18e album solo, Je ne suis pas certain, de selon certaines sources, si c'est toujours le 18e album solo du groupe Santana ou de la personne, Carlos Santana. Bref, il en a fait plusieurs, il a fait des collaborations, il a fait plein de choses. Donc, il est né au Mexique. Il a commencé à apprendre le violon à l'âge de 5 ans. Je ne sais pas si c'était vraiment à sa demande ou on soupçonne que c'est probablement son père.
Ou sa mère. Parce qu'il est...
Ou sa mère, mais je dirais plus son père, parce qu'il a commencé le violon à 5 ans et la guitare à 8 ans. Et c'est son père qui lui apprenait parce que son père était un musicien mariachi.
Ah!
Donc, au Mexique, je pense que c'est assez fréquent. Là, c'est pas quelque chose de rare. Et juste une petite anecdote là-dessus en passant. Quand j'ai vu le mot mariachi, ça m'a fait sourire un peu parce que je sais pas si vous imaginez un peu les groupes de mariachi.
Complètement.
Là, guitare, grosse basse acoustique.
Habillé de chemise à froufrou.
Et violon. Oui. Et quand je jouais au Club Med, j'ai joué une couple de fois au Mexique à deux endroits différents. Et on nous avait demandé à un moment donné de jouer pour un genre de 5 à 7, un apéro sur le bord d'une piscine dans un quartier privé du Club Med. Et là, on nous avait dit, ben là, c'est 5 à 7, c'est tranquille, faut vous jouer. On vous demande de jouer de la musique plus douce puis pas fort. Faut vraiment que les gens s'entendent parler.
Ouais, comme une tapisserie un peu.
Eh ouais, c'est ça. Fait que nous, on est là avec le pianiste, on joue des trucs assez sans... Puis à un moment donné, là, quelqu'un vient nous voir puis dit, là, vous allez prendre une petite pause parce qu'on a quelque chose de spécial. Et là, il y a un groupe de mariachi qui arrive et ça part, ça. Et ben, ça nous a couché à la tête, les trompettes en voyant, c'est comme si... C'était assez... Comme ça, on s'est regardé, on s'est dit, c'est quoi l'affaire? Il ne faut pas qu'on joue fort.
Ben mais, oui. En tout cas,
bref, fin de la parenthèse, le père mariachi, je le voyais, là, je l'imaginais très bien. Là. Je l'imaginais aussi apprendre à jouer de la guitare à son fils, pas fort, puis lui, quand il arrive avec sa trompette, il réveille tout le monde. Bon, bref.
C'est le temps de se lever, Carlos.
Ouais, c'est le temps. Oui, ça réveille. Donc, ça, c'est, quand lui, il est né dans un... Je suis plus vers le sud-ouest du Mexique. Et plus tard, sa famille a déménagé à Tijuana, qui est plus proche de la frontière de la Californie. Et par la suite, ils sont déménagés à San Francisco, en Californie. Et en 1965, il est devenu citoyen américain. Donc, pour éviter la confusion, là, ceux qui pensent qu'il est encore mexicain, il doit avoir les deux citoyennetés, là, mais il est citoyen américain. Et en 1966, il a formé son premier groupe qui s'appelait The Santana Blues Band, mais finalement, c'est devenu Santana tout court. Je pense que c'était plus facile à retenir. Et je pense que c'est peut-être un petit peu à cause de la compagnie disque. Quand il a signé avec la compagnie Columbia Records, je pense que c'était plus marketing d'avoir le nom seulement Santana. Et ça, c'est assez particulier parce que je vous en avais glissé un mot il y a quelques semaines quand j'ai parlé du groupe Chicago. Chicago qui est parti, qui avait commencé en 1969 et ça avait parti très, très fort et on leur avait demandé de jouer au festival de Woodstock qui avait lieu au mois d'août 1969. Et pour toutes sortes de raisons de logistique, ils ne pouvaient pas vraiment. Et Santana avait le même gérant et lui avait décidé de placer Santana plutôt que Chicago au festival de Woodstock.
Oui.
Et ça a été un très bonne...
carte de visite.
Bonne chose, très bonne carte de visite pour eux parce qu'ils étaient sur le point de lancer leur premier album qui a été lancé au mois d'août 1969, justement. Et l'album a été lancé après qu'ils ont joué au festival de Woodstock. Donc, quand ils ont joué à Woodstock, ils n'étaient pas connus, mais ça a frappé fort. Et l'album est paru immédiatement après. Et ensuite, il y a eu le film documentaire sur Woodstock. Et dans le film, on voit Santana et leur performance la plus marquante, je pense, le Soul Sacrifice. Donc, le succès de Santana est arrivé, vraiment, c'est une question de coïncidence peut-être, là, mais en tout cas, il y a des choses
au
qui
bon
sont
moment,
arrivées
en tout cas.
Au bon moment. Ouais. La présence à Woodstock et leur premier album. Donc, on va écouter quelques extraits de leur premier album et leur deuxième, qui est le plus connu, et un petit peu le troisième aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi ensuite.
Lord knows you got to change. magic woman. I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me.
Wow!
Me permettrais-je de dire que j'ai vu l'animatrice triper?
Ah oui, vraiment. C'était du très bon Santana. Les trois premiers albums, là, ils ont offert oui. des pièces extraordinaires. Samba Patti, t'es pas là, Daniel?
Ah, j'ai manqué de temps. J'aurais aimé ça. Premièrement, les extraits qu'on a entendus, les trois premiers extraits, il y avait Evil Ways, Jingo et Soul Sacrifice. Ça, c'était sur le premier album. Mm-hmm. Et le deuxième album est sorti pas longtemps après, en septembre 1970.
T'étais vraiment productif, hein?
Oui, et quand le deuxième album est arrivé, on a vu tout de suite que le premier avait eu beaucoup de succès parce que ça paraissait que le budget était pas mal meilleur pour le deuxième. Le son d'ensemble du deuxième album, celui sur lequel justement on trouve Samba Patti, Black Magic Woman, Oye Komova, tout ça.
L'album qui s'appelle Abraxas.
Abraxas, c'était vraiment beaucoup meilleur comme qualité de son. Et le troisième album, ben, je vais vous parler un peu d'Abraxas avant de vous parler du troisième, mais... Le deuxième album, Abraxas, qui est sorti en septembre 1970, a été 6 semaines numéro 1 au Billboard à la fin de l'année 70, certifié 4 fois platine. Donc, il avait frappé très, très, très fort, celui-là aussi. Et le troisième album, on parle souvent des trois premiers albums, justement, de Santana, parce que c'est les trois qui ont frappé le plus. Et le troisième, on a entendu un petit extrait de No One to Depend On. Et le troisième album, ils ont ajouté un artiste qui n'était pas sur les deux premiers, un jeune guitariste du nom de Neil Sean, qui plus tard va former le groupe Journey.
Ah
avec
oui.
Avec Greg Rowley, qui était le claviériste de Santana, qui chantait Oye Komova, Black Magic Woman, tout ça. Donc, Santana a été un petit peu aussi une belle occasion pour certains artistes de prendre beaucoup d'expérience,
oui, de se faire
de
découvrir,
se faire connaître, ouais, de se faire découvrir et d'avoir une super belle carrière par la suite. Donc, le troisième album Santana, comme on disait, c'est probablement le dernier qui a eu un grand succès et le dernier dans lequel on reconnaissait vraiment Santana. Santana, c'était quoi dans le fond? C'était beaucoup de percussions. Le son de... Je sais pas si on peut dire que Santana a inventé ce style-là, mais en tout cas, il a fait beaucoup pour le développer. C'était vraiment du rock latin avec beaucoup de,
oui.
beaucoup de percussions.
Je me disais que son père a peut-être eu un petit peu d'influence avec les trompettes mexicaines.
Oui, parce que sur le troisième album, on entend beaucoup de cuivre, ce qu'on n'entend pas sur les deux premiers. Donc, ces trois premiers-là, c'est beaucoup du rock latin. Il a développé ce style-là. Je pense qu'il était vraiment les seuls dans ce créneau-là à l'époque.
Du rock après latin ça, avec une petite touche de blues aussi.
Oui, touche de blues, surtout par le son de la guitare de Santana. Et par la suite, il a expérimenté beaucoup. Il est allé un peu dans le jazz fusion. Il a fait toutes sortes de trucs. Il n'a jamais arrêté. Il a travaillé beaucoup, fait de la tournée. Il était présent un peu partout, mais ses disques se vendaient moins. C'est pour ça qu'il y a un gros gap là, entre le troisième album et le 18e. Tout le monde était bien surpris de voir que le Supernatural, c'était le 18e. Il s'est passé quoi entre le 3e et le 18e? Il y a eu quand même 15 là, qui sont presque passés dans le vide.
Oui, un gap, mais, ça veut dire écart en français.
Un écart, oui, je cherchais le mot pendant que je parlais. Mais je pense que gap était dessus.
Oui, mais moi, je me demandais de quoi vous parliez. Je pensais que vous étiez en train de faire une publicité de la boutique.
Non, je ne suis pas ça.
Je blague.
On ne fait pas ça ici.
Alors, je m'écarte.
Oui. Mais pendant la période entre 1969 et 1979, Santana a lancé 11 albums. Et après ça, il y a seulement 5 entre 80 et 90. Un en 92, les ventes n'étaient jamais très bonnes. Il continuait à faire des tournées, mais les ventes n'étaient pas très bonnes. Et même s'il s'est retrouvé sans contrat de disque à un moment donné. Et par la suite, avec un nouvelle compagnie de disques, ils ont décidé que là, ce serait peut-être le temps de retourner sur les radios et sur les palmarès.
Ouais.
Donc, ils ont décidé de faire un album avec des artistes plus jeunes. Donc, chaque chanson sur l'album Supernatural, c'est avec des nouveaux artistes. Et c'est devenu l'album de Santana qui a été le plus vendu.
C'est comme une formule éprouvée, hein?
Ouais, ben je pense qu'il y en avait beaucoup à cette époque-là aussi, fin des années 90, des artistes connus qui faisaient des duos, puis bon. Mais je pense que dans le cas de Santana, ça a été très, très, très fructueux. Il a remporté en 2000, pour cet album-là, le Grammy Album de l'année. Il est devenu le premier artiste latino à gagner ce trophée. Et en tout, pour cet album-là, il a remporté 9 trophées aux Grammy Awards en 2000, dont le meilleur album rock aussi. Et avec, par le fait même, il a battu le record de Thriller, qui en avait eu seulement 8, de Michael Jackson. Donc ça valait la peine. Je pense que ça valait vraiment la peine de souligner que cet album-là a frappé très fort. Et Santana, qui est encore actif aujourd'hui, bon, j'ai entendu dire qu'il y avait des petits problèmes de santé dernièrement qui l'ont obligé à annuler certains spectacles. Mais il est toujours actif. Il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1998. Et à cette occasion, il avait interprété, pendant le spectacle, il avait interprété Black Magic Woman avec Peter Green, qui avait été intronisé lui aussi le même soir. Et Peter Green, c'est lui qui avait écrit Black Magic Woman.
Ah oui.
Donc, ça a sûrement dû être un moment assez émouvant pour tout le monde. Alors voilà, ça fait un petit peu le tour de l'album.
Bien, on va écouter un autre extrait de Supernatural. Est-ce que vous voulez nous présenter cette chanson,
oui,
Daniel?
Oui, c'est le deuxième extrait qui avait été publié sur, pas 45 tours, mais en simple à l'époque, qui s'appelle Maria Maria.
Maria Maria. Qui est le chanteur, Daniel?
C'est David McRae, Marvin Moore. Oh, je ne sais pas c'est qui, je ne les connais pas.
Non, nous non plus, mais c'est une voix reconnaissable.
Oui.
Oui, ça fait un peu Ricky Martin. Et oui. Donc, c'est une chanson qui a connu beaucoup, beaucoup de succès, qui est tirée de l'album.
Ça a joué beaucoup.
Oui.
Juste un petit dernier mot avant de terminer. Quand je vous disais tantôt, c'était difficile à suivre un peu les albums de Santana. En 99,
il reste 5 secondes.
Oui, le 18e, 18e album. Et en 2016, ils ont présenté Santana 4.
Parce
que c'était avec les mêmes musiciens que les trois premiers.
Merci Daniel, merci Serge, à bientôt.
Bye.